Donc ici ce soir pour la quatrième et dernière soirée de cette 18e quinzaine du Narthex. Le thème général de cette quinzaine, c'est la parentalité dans notre société. Et bon, vous avez pu constater que ce thème n'est pas forcément très très facile, qu'il est très vaste et que le terme lui-même de parentalité n'a pas une définition très très précise. En fait, le terme figure dans des éditions récentes de dictionnaires, mais si vous prenez une édition un peu ancienne, vous ne trouverez même pas le mot parentalité. Et ce terme s'est défini au fur et à mesure des besoins, en fait. Et sa définition, finalement, est différente selon les... un petit peu différente, elle est plus ou moins précise selon les champs d'application de ce concept de parentalité. Donc il y a eu cette première soirée, la table ronde, Être parent aujourd'hui, où on a essayé de réfléchir à comment on pouvait concevoir le rôle de parent aujourd'hui, d'une part de la part de parents et d'autre part de la part de futurs parents, et d'une spécialiste un petit peu du conseil parental et conjugal. La deuxième soirée, c'était l'évolution des rôles parentaux, qui ont été rappelés par une sociologue et psychologue de l'Université de Bordeaux, et qui a bien montré l'évolution des structures familiales dans la société actuelle. La troisième soirée, mercredi dernier, était la soirée spirituelle de la quinzaine du Narthex. Son titre, c'est « Il l'appelle notre Père ». Et la conférence a été donnée par Claire Sixte-Gatteuil, qui est pasteur de l'église réformée des Hautes-Pyrénées, et qui nous a rappelé un peu l'évolution, enfin un peu beaucoup, brillamment d'ailleurs, l'évolution de nos représentations de Dieu Père dans l'histoire, dans la Bible. Et un petit peu, si on voulait un petit peu schématiser, en reprenant une phrase du Père Moins, c'est un petit peu le passage de la soumission à la loi à l'amour gratuit, en paraphrasant un petit peu ce que disait le Père Moins. Ce soir, nous accueillons M. Alain Bourigba, qui est psychiatre, psychanalyste, qui est directeur de la Fédération des Relais Enfants-Parents, qui est une fédération d'associations qui s'occupe, enfin qui a pour objet de restaurer et de maintenir le lien entre parents et enfants dans des situations familiales difficiles, notamment pour le cas de parents emprisonnés, de parents malades physiquement, enfin je ne sais pas comment on dit d'ailleurs pour les médecins, ou mentalement, et qui accompagne notamment également des adolescents incarcérés. Donc Monsieur Bourigba est donc le directeur de cette association, en charge donc de, je pense, d'un tas de questions liées au choix associatif et notamment de la formation des bénévoles et des permanents de l'association. Il y a, je crois, dans la Fédération des Relais Enfants-Parents, 600 bénévoles et 40 permanents. Donc, M. Bourigba, vous organisez les formations, vous les assurez en bonne partie pour tous ces permanents. Et vous êtes par ailleurs psychologue conseil à la Ligue contre le cancer. Et encore par ailleurs, vous êtes psychologue en libéral, vous avez un cabinet, donc vous avez vous-même une pratique très importante, enfin vous êtes un praticien en fait, hein, vous êtes un praticien. Donc je vais vous laisser la parole, parce que l'intérêt c'est de vous écouter vous. Après l'intervention de M. Bourigba, on fera une très brève pause sur place de 3-4 minutes pour pouvoir un petit peu échanger entre vous, un petit peu vous détendre, que M. Bourigba puisse aussi se détendre un peu. Et puis ensuite, on passera à la partie questions. Et là, je ferai circuler un micro pour ceux qui voudront poser des questions à Alain Bourigba. Voilà, donc je vous laisse la parole.
Merci à vous. Merci de m'inviter. Je suis très heureux d'être à Tarbes ce soir.
Oui, je vais tâcher de vous rendre compte de réflexions que je tire de la confrontation à des parents difficiles, mais aussi des parents lambda, puisque j'ai... dans mon activité clinique, à la fois l'occasion de me confronter à des parents terribles, des parents incarcérés, des parents atteints de troubles psychiatriques, des parents malades, mais aussi des parents ordinaires, des parents qui viennent consulter dans le cadre libéral du fait de difficultés qu'ils rencontrent dans l'éducation de leurs enfants. Et extraire de ces situations extrêmes et des situations plus ordinaires des questions sur la difficulté à être parent m'a amené depuis quelque temps à réinterroger la théorie. Il n'y a d'ailleurs pas à proprement parler de théorie de la parentalité, puisque le concept, on vous le rappelait, est un concept nouveau, mais il y a des schémas psychanalytiques, notamment systémiques, qui ont rendu compte des relations enfants-parents depuis longtemps et qui peuvent être interrogés aujourd'hui à la lumière et de cette confrontation, de cette rencontre avec des parents difficiles ou moins difficiles. Qu'est-ce qui peut être commun entre la difficulté d'un parent à supporter l'échec scolaire de son enfant et la difficulté d'un parent psychotique à rentrer en relation avec son bébé? C'est un peu ce qui me guide depuis plusieurs années. Mettre et dresser en parallèle des difficultés ordinaires et des difficultés extrêmes et particulièrement marginales. C'est une approche de praticien, c'est pas une approche de théoricien. Je n'ai pas vocation à être un magistère, mais à interroger mes pratiques à l'ombre de quelques grandes théories et bien sûr à l'ombre de la psychanalyse. Alors, qu'est-ce que je peux dire de façon générale qui ne vous a été dit sur les difficultés à être parent, l'impact que ces difficultés peuvent avoir sur le développement de l'enfant et les moyens qui peuvent être imaginés pour aider le parent à disperser ce qui l'entrave dans l'exercice de sa responsabilité. C'est les trois étages que j'ai décidé de vous présenter et de vous proposer ce soir. Alors, les difficultés à être parent. Pour en rendre compte, il me faudra dans un premier temps différencier les notions de rôle parentaux, de fonction parentale. Les rôles parentaux, c'est l'exercice effectif de sa responsabilité. C'est des conduites, des comportements réels, mesurables, observables. La fonction parentale, dans le prolongement notamment de l'appréhension psychanalytique, c'est quelque chose de beaucoup plus intérieur. C'est d'ailleurs à proprement parler, non pas tellement la manière dont le parent se comporte avec l'enfant, que la manière dont l'enfant utilise son parent à l'intérieur de lui. Quand on parle de fonction paternelle, par exemple, dans le champ de la psychanalyse, ça n'a rien à voir avec la présence du père. Mais c'est la manière dont l'enfant actualise en lui la permanence paternelle pour se diriger, pour se signifier ce qu'il convient de faire et opposer ce qu'il convient de faire à ce qu'il ne convient pas de faire. Cette façon que nous avons en nous d'interroger des figures parentales, des imagos parentaux, pour reprendre la vieille expression qu'on tire de Jung, de l'œuvre de Jung, à interroger en nous ces représentations parentales, on les fait fonctionner comme des éléments importants, essentiels de notre propre armature psychique. Et là, on est autorisé à parler de fonction parentale. La fonction parentale agit en nous comme elle agit dans l'enfant que nous étions. Elle ne se limite pas aux rôles parentaux, d'où l'importance de dissocier les deux notions. Alors, le parent n'a de prise que sur le rôle qui est le sien. Il n'a pas de prise sur la fonction qui est la sienne, puisqu'il appartient à l'enfant de faire quelque chose de son parent. Quelquefois, l'enfant peut en être totalement empêché, pour des raisons de troubles psychiques, par exemple. Il peut être empêché de faire quelque chose de positif de la présence de son parent, ce qui explique que de bons parents peuvent avoir des enfants qui sont exposés à des troubles. Et on peut, à la seule observation de l'enfant, se représenter qu'il a eu des parents incompétents, alors qu'en fait, il a eu des parents tout à fait compétents. Mais il n'a pas eu l'art d'en faire et d'en accommoder quelque chose qui soit pertinent en lui. Mais nous verrons ça dans la deuxième partie. Arrêtons-nous sur la notion de rôle. Là, le parent a une prise. C'est le comportement effectif, réel. Alors, ce rôle parental évolue, on vous l'aura expliqué précédemment, en fonction des époques et en fonction de l'histoire. Pendant des siècles, le rôle parental a été celui d'un guide. Il était important que le parent guide son enfant plus que il m'était important qu'il ne l'éveille. Aujourd'hui, il contribue à son éveil éducatif. Le parent s'est connu en éducateur, ce qu'il n'était pas. Il était nourricier quand il s'agissait de la mère, il était guide quand il s'agissait du père, il n'était pas éducateur. Aujourd'hui, il a investi cette fonction éducative. Ses rôles parentaux évoluent pas de façon libre, pas en électron libre. Ils évoluent en fonction des exigences sociales vis-à-vis de l'enfant. Un enfant n'est pas la propriété de son parent, ou sinon il est progéniture. S'il est enfant, il est propriété de la cité. Il est un citoyen en devenir. Citoyen, je vous le rappelle, étymologiquement, c'est celui qui est donné à la cité. L'enfant, pour le droit latin, l'est dès lors où il est donné à la cité. Et la cité a des exigences pour ses citoyens qui évoluent selon les époques. À l'époque romaine, elle a surtout pour exigence d'avoir des enfants, des citoyens soldats. Et elle attend des pères, que les pères éduquent leurs enfants pour en faire des soldats. C'est pourquoi ils ont le pouvoir de vie et de mort sur eux, ce qui ne signifie pas qu'ils aient un droit sur une progéniture. Ils n'ont pas le droit de l'aliéner, ils n'ont pas le droit de vendre leur enfant. S'ils ont le droit de commander de vie sur mort, de vie ou de mort sur eux, c'est simplement à l'image du pouvoir qu'avait le centurion sur ses soldats, qui pouvait décider de les décimer s'ils n'étaient pas suffisamment contents d'eux, c'est-à-dire tuer tous les dix soldats qui, de sa cohorte pour s'assurer une discipline d'airain. Le père, dans la Rome antique, est celui qui commande, parce que la cité a besoin de soldats. Et son enfant lui doit obéissance. C'est l'origine du pater familias, qui n'a rien à voir avec un droit de propriété. Il existait des droits de propriété sur certains enfants, ce qui n'était pas déclaré. Cela pouvait être aliéné, mais ils n'étaient pas citoyens de la cité romaine. Dès lors où ils avaient été déclarés par un père, ils n'étaient plus aliénables. On ne pouvait plus, quand on contractait une dette, l'hypothéquer de leur chair. On le pouvait quand il s'agissait de progéniture. Pendant des siècles, il a fallu des soldats, et on a éduqué les enfants afin qu'ils le soient. Il est resté de cette tradition latine le pater familias qui dominait encore largement dans nos repères sociaux jusqu'au milieu du siècle qui précédait. La cité aujourd'hui n'a plus besoin de soldats. Elle a besoin de citoyens responsables, ceux qui peuvent revendiquer leur authenticité, leur individualité, ceux qui peuvent demander le droit de s'exprimer, ceux qui prennent la parole. Elle a besoin de citoyens qui concourent à l'agora publique. Et les valeurs qui dominent sont alors des valeurs d'épanouissement, d'éveil. Et on attend du parent non pas qu'il éduque dans le sens de la restriction, mais dans le sens de l'accompagnement et de l'épanouissement. On transforme les normes de comportement parental en fonction des besoins de la société en matière de citoyenneté. Les citoyens aujourd'hui ne contribuent pas à la cité comme ils pouvaient y contribuer hier. Dès lors, l'attente au regard des normes parentales s'est modifiée, s'est considérablement modifiée. Les normes qui s'imposent aujourd'hui ne sont plus celles de l'autocratisme, mais celles de la démocratie. Dans les familles, les enfants ont le droit de parler, prennent la parole. Ils ne la prenaient pas il y a encore 50 ans. Il faut se représenter comment les choses ont pu étonnamment basculer en l'espace d'une ou deux générations. Je suis quinquagénaire. Enfant, on ne parlait pas à table. On écoutait religieusement la famille du raton, c'est un feuilleton radiophonique, et les informations. Et je me souviens à l'âge de 7 ans, après la famille du raton, avoir écouté les informations à la radio et avoir entendu aux informations qu'une femme s'était fait violer. J'ai demandé à mon père, qui était plutôt sympathique, que signifiait le mot violer. Il m'a envoyé une paire de chiffres en me disant « ce mot-là ne se prononce pas ». Il était méditerranéen, donc particulièrement austère. Il y avait des mots tabous dans l'espace familial, des mots qui ne se disaient pas, et puis de façon générale, on ne parlait pas. Mes enfants réagissent totalement différemment. Ils prennent la parole sur tout, et surtout quand on ne leur demande pas de le faire. La scène familiale n'est plus du tout ce qu'elle pouvait être. Mais les attentes sociales vis-à-vis des parents se sont considérablement transformées. On attend des parents qu'ils fabriquent du citoyen responsable dans une cité démocratique. Et les valeurs qui dominent dans l'organisation familiale sont des valeurs démocratiques. C'est des valeurs de prise de parole, d'épanouissement. Par ailleurs, il y a eu un bouleversement de l'éthique. L'éthique était naturellement fondée jusqu'à l'époque de Freud, enfin, quand Freud en parle dans Malaise dans la civilisation, sur le renoncement et la frustration. Aujourd'hui, les choses se sont inversées. L'éthique qui prévaut, c'est une éthique de l'épanouissement. Il était important de renoncer à la sexualité. Il est essentiel de la satisfaire. On est passé de l'exigence du refoulement à l'exigence de la sexualité à tout âge, dans toutes circonstances. Ce basculement de l'éthique bascule aussi les normes éducatives. Les parents sont accommodés à une sauce un peu nouvelle. Alors ça entraîne dans certains groupes quelques difficultés, puisque une norme n'est pas nécessairement effective dans tous les groupes sociaux. Il existe des groupes qui résistent à ces normes. Ils peuvent y résister de façon heureuse ou y résister de façon dramatique. Ils y résistent de façon heureuse quand ils font le choix d'y résister. Ils y résistent de façon malheureuse quand leur résistance est fonction de la difficulté qu'ils ont à intégrer les normes qui dominent et quand ils ne sont pas reconnus dans leur spécificité pour respectables dans leur marginalité. Je vous en donne quelques illustrations. Vous trouverez des familles où il est encore souhaité de faire taire les enfants, où les valeurs autocratiques sont des valeurs qui dominent. La société, des officiers supérieurs et généraux, par exemple. Je n'en sais rien, je ne connais pas de général, mais je peux le supposer. Mais ils le font. Ils assument leur marginalité, soucieux de tradition, soucieux d'élitisme. Ils revendiquent et ne souffrent pas de leur mise à l'écart au regard des normes qui sont celles qui ont le plus souvent pignon sur rue. À l'inverse, vous trouvez des normes analogues à ces normes traditionnalistes. Dans des cultures méditerranéennes, par exemple, mais qui, elles, sont vécues sous un mode négatif. Quand on est de culture maghrébine, il est extrêmement compliqué, quand on est un père, de s'entendre dire « il faut écouter ses enfants, être accessible, essayer de comprendre pourquoi ils agissent comme ils agissent ». Quand vous êtes un père maghrébin, que vous voyez arriver votre gamine de 15 ans avec les cheveux carottes et avec deux anneaux dans le nez, ça vous parle une langue étrangère que de vous entendre dire il faut être à l'écoute de ces adolescents. Alors vous brutalisez, parce que vous êtes brutalisé par la confrontation aux normes, votre enfant, et vous en tirez la conclusion que vous êtes vraiment un parent incompétent. Pour soutenir un écart à la norme, il faut être de milieu hautement privilégié. Il est possible de soutenir un écart à la norme, mais ça demande des moyens. Des moyens intellectuels, des représentations, des moyens dogmatiques que tous les parents n'ont pas. Les normes et les pressions normatives agissent comme des valeurs disqualifiantes pour les parents les plus en difficulté. Alors assurément, ces normes ne représentent pas de façon exclusive la façon dont on est parent aujourd'hui, mais elles s'imposent à tous, qu'on en soit éloigné ou qu'on en soit proche. Les normes qui dominent sont des normes psychologisantes, ce sont des normes d'épanouissement, d'éveil. qui vont et qui marchent de pair avec l'éthique qui domine aujourd'hui, qui est l'éthique de l'individualité. Un individu d'ailleurs qui est érigé en Dieu, comme le disait Mounier dans le personnalisme. Un individu qui est donné pour être sans racine pratiquement, réduit à lui-même, cause de lui-même. Un individu qui est un mythe, qui n'est pas une réalité, mais un individu qui est toujours promu. Et les normes psychologisantes sont des normes d'éveil, de proximité, d'écoute, d'attention. On demande aux psychologues d'agir comme des garants de cette norme. Et il y a une pression qui s'exerce auprès d'eux pour qu'ils distillent des normes éducatives et vous disent ce qu'il convient de faire en toutes circonstances. Et les psychologues ont quelquefois la tentation de se mettre à être de donneurs de leçons, à vous expliquer comment il convient d'être en tant que parent, à vous donner des conseils fermes. J'en veux pour preuve celle d'un pédopsychiatre célèbre qui nous conseille de ne pas avoir deux enfants qui ne soient écartés de 8 ans. Alors bien sûr, quand on a l'habitude de la critique et du cartésianisme, on se dit pourquoi 8 ans et pourquoi pas 7 ans et pourquoi pas 12 ans. Ce type qui doit m'en parler n'a dû avoir qu'un seul enfant, et c'est exact. Et puis on se dit peut-être que finalement il est fils unique, et c'est exact. Donc on se dit, mais enfin, il ne sait pas de quoi il parle, et c'est exact. Mais c'est érigé comme des dogmes, et on le voit bien, c'est actuellement un lieu, un enclos de nouvelles formulations quasi religieuses, et les psys sont donnés pour des nouveaux augures qui vous indiquent ce qu'il convient de faire, ce qu'il ne convient pas de faire, et qui oublient que bien souvent ils sont comme les cordonniers, les moins bien chaussés. La psychologie est là pour interroger quand elle est bien comprise plutôt que pour donner des réponses, et elle ne doit pas s'ériger en dogme, c'est-à-dire qu'on ne doit pas tirer des théories les conditions de la réalité. On doit interroger la théorie à partir de la confrontation qui nous oppose à la réalité, et non pas l'inverse, non pas enfermer le réel dans une théorie. Ou sinon, on est producteur de dogmes. Et quand il s'agit de sciences molles comme les sciences de l'homme, c'est toujours un peu compliqué que de pourvoyer aux dogmes et aux idéologies. Les comportements parentaux sont des comportements éminemment psychologiques. Pourquoi ? Parce que dans une démocratie, le pouvoir se prend avec la capacité à prendre la parole. Pour exercer le pouvoir, il n'est pas question de le faire sur le mode des rapports de force, mais sur le mode de la conviction. Emporter le pouvoir, quand on est dans une cité démocratique, c'est emporter la conviction de ceux qui nous écoutent. Et pour qu'ils nous écoutent de façon pertinente, il faut les appréhender dans ce qu'ils sont. Un bon démocrate doit toujours savoir manier la brosse à reluire. Et c'est pourquoi on attend de lui cette clairvoyance dont parlait Aristote dans la Politique, cette clairvoyance de l'auditoire, on attend de lui qu'il soit psychologue. Et les parents sont invités à devenir psychologues. Cela met certains parents en difficulté. Et la première source de difficulté est fonction des normes qui dominent dans les rôles parentaux. Mais ce n'est pas la seule source de difficulté. Je vous le disais, ces normes sont fonction des exigences de la cité à vouloir des enfants, futurs citoyens, capables de contribuer à l'agora publique. Quelques parents ont du mal à assumer ce rôle qui leur est confié par la cité, de faire de leurs enfants des citoyens responsables. Mais certains, et en amont, s'y refusent. Il faut bien entendu accepter la tâche qui vous est donnée pour pouvoir l'exercer de façon satisfaisante. Et il n'est pas certain que tous l'acceptent. Certains assument difficilement la tâche qui leur est confiée parce qu'elle ne fait pas écho en eux à des normes et à une éthique sur lesquelles il pourrait la reposer. Mais par ailleurs, certains sont en difficulté parce qu'ils ne souhaitent pas assumer cette tâche qu'on leur confie. Et là, il faut revenir aux racines du lien qui unit le parent à son enfant. Ce lien est double, il a deux faces. Il est pour partie un lien consubstantiel. Dans le parent et l'enfant, il y a une identité commune qui les joint l'un à l'autre. Et le parent peut vouloir un enfant pour lui-même. Et chacun d'entre nous, en tant que parent, a voulu son enfant comme prolongement de soi, un prolongement antique, capable de nous réparer, déjà de notre mortalité, de nous réparer de ne pas être de l'autre genre. Un homme est réparé de ne pas être une fille quand il a une fille, et une femme est réparée de ne pas être un garçon quand elle a un garçon. C'est une réparation ontique, c'est une unification qui se bâtit quand je deviens parent. L'enfant pour soi, et puis un enfant qu'on dédicace, qu'on dédie à un autre. L'enfant que l'on relie à un autre, que l'on dédie à l'autre parent, que l'on dédie à ses propres parents, que l'on dédie à la communauté, que l'on voudrait voir grandir au sein de la communauté, que l'on dédie à la nation, que l'on dédie à l'humanité tout entière. Il y a un double mouvement qui nous fait être parents, un mouvement consubstantiel et un mouvement de dédicace. Plus le parent est blessé du point de vue narcissique, plus son identité est malmenée, plus elle est troublée, plus elle est installée sur des failles profondes, et plus il s'accroche à l'enfant comme un complément de lui-même, et plus il est en panne de dédier l'enfant à un autre que lui. Par ailleurs, du point de vue psychosocial, il faudra noter que certains parents ont du mal à dédier leur enfant à une société qui leur a été hostile. Il est très difficile à des parents de dédier l'enfant à la cité dans laquelle ils évoluent quand cette cité a sur eux un propos négatif, hostile. On a beaucoup parlé de la condition des Afro-Américains aux États-Unis avec l'élection d'Obama, dont on se dit que c'est une excellente chose. C'est une excellente chose, mais en même temps, on ne doit pas cacher qu'après plus de 50 ans de droits civiques acquis, la situation des Afro-Américains est quand même effrayante. Un noir de Chicago, la ville d'Obama, sur deux de moins de 25 ans fera un séjour en détention. Un noir sur deux. Alors bien sûr, il y a des phénomènes sociaux qui expliquent cette itération, cette répétition. Mais ce n'est pas suffisant aussi. Il y a des colères que les enfants font parce que les parents n'ont pas eu le courage de le faire. Il est quelquefois très ambivalent dans le propos de certains parents de les entendre dire « Mon enfant, tu dois réussir ». Dans leur façon même de l'affirmer, on entend tout le contraire. Parce qu'ils n'ont pas envie que l'enfant apporte à la société dans laquelle ils n'ont pas pu s'insérer cette pierre angulaire qui pourra la faire se porter mieux, cette société. C'est très compliqué pour eux. On a la même chose en France, en milieu migrant. Certaines colères qui peuvent être faites et compulsées, certaines banlieues, au point de pousser certains jeunes à brûler des voitures, leurs voitures, le plus souvent celles de leur père, au sens large. C'est des colères que leurs pères n'ont pas faites. Pour dédier son enfant à la cité dans laquelle on évolue, il faut que celle-ci vous ait suffisamment accueilli. Quand elle vous a été trop hostile, il est très difficile aux parents d'y dédier leur enfant. Ça, c'est du point de vue psychosocial. Du point de vue plus psychologique, il est étonnant de voir combien certains parents sont totalement empêchés, entravés de dédier leur enfant à un autre qu'eux-mêmes, dès lors où ils ont un appétit d'enfant capable de les réparer, de les soulager de leurs blessures profondes. ils ont voulu un enfant pour eux-mêmes. On a tous voulu un enfant pour soi, mais on l'a voulu en même temps aussi un peu pour les autres. Ce qui fait la difficulté à être parent, d'un point de vue psychologique, pour l'essentiel, c'est ce mouvement d'agrippement. Garder l'enfant pour soi, ne pas le relier à d'autres. Quelle que soit la forme de disparentalité, de dysfonctionnement parentaux, il s'agit toujours d'une pulsion d'agrippement, même la maltraitance. La maltraitance n'est pas malaimance, désaimance, c'est même tout l'inverse. Il se trouve que parmi toutes mes activités, j'en ai une autre, je suis conseiller technique au Conseil général des Hauts-de-Seine, où j'assume la supervision de trois équipes de psychologues. L'une est en charge du numéro Écoute Enfance, l'autre un numéro spécifique, il n'a pas d'équivalent dans d'autres départements, c'est Écoute Parents, et une troisième équipe est en charge de la remise des dossiers aux enfants devenus adultes qui ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance ou qui ont eu une mère génitrice ayant souhaité accoucher dans le secret. Donc j'entends dans le récit que font les enfants qui ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance par une mesure de délégation d'autorité parentale ou à Écoute Parents des enfants confrontés à des parents terribles. Les parents terribles n'ont jamais été des parents négligents. Ça n'a jamais été des enfants qui ne désiraient pas l'enfant. Ils le désiraient trop. Dolto avait coutume de différencier désir et volonté. On peut vouloir un enfant qu'on ne désire pas, ça donne des enfants négligés. On peut désirer un enfant qu'on ne veut pas. Le désir est souterrain, il est inconscient. La volonté, c'est la projection consciente du désir dans la sphère de la demande. Il y a des tas de choses que l'on veut mais que l'on ne désire pas. Il suffit de regarder nos comportements d'achat, tout ce qu'on peut acquérir et dont on ne se sert jamais. C'est des choses qu'on a voulu sans les désirer vraiment. On échappe totalement à la connaissance de ses désirs. Il arrive quelquefois qu'un enfant soit voulu sans être désiré. Il peut être voulu pour des tas de raisons, des raisons de transmission du patrimoine, des raisons de prestance sociale, sans être désiré. Dans ces cas-là, on a des enfants négligés, des enfants qu'on va confier à des éducateurs. Je vois pas mal de ces enfants dans des écoles très sélectes à Paris, où les parents paient très cher une éducation qui n'est pas sûre, mais dont ils se déchargent totalement sur les pédagogues. Ça, c'est des enfants négligés. Les enfants maltraités ne sont jamais des enfants négligés. C'est l'inverse, quelquefois. C'est des enfants qui ont été désirés alors même que les parents prétendaient qu'ils ne les voulaient pas. Mais ils ont toujours été désirés. Mais désirés pour soi. Le parent maltraitant est un parent qui s'agrippe à l'enfant. Il ne veut pas renoncer jamais à être la cause de l'émotion de son enfant. Il veut pouvoir occuper l'esprit de son enfant à perpétuité. Et ça marche, la maltraitance. Un parent maltraitant occupe l'esprit de son enfant durablement, bien davantage qu'un parent aimant. L'obsession d'un enfant pour son bourreau est bien plus grande que pour celui avec lequel il a une relation de tendresse. Le parent maltraitant est un parent qui se représente la nécessité pour lui d'occuper totalement l'espace de son enfant, l'espace psychique de son enfant, parce qu'il veut le garder pour lui-même. Je vais vous en donner une illustration. Dans un espace rencontre spécialisé où j'interviens, je vois une mère qui est totalement pyramidale. Je ne sais pas trop comment la décrire autrement. C'est-à-dire qu'elle est, c'est un bloc. C'est un bloc, elle arrive maugréante, une voix profonde, toujours excessive. Elle avance comme ça. elle a quelque chose de profondément dépressif qui se fige dans sa méchanceté. Vous savez, méchanceté et malheur en hébreu, c'est le même mot. Elle est figée dans la méchanceté comme beaucoup de dépressifs pour s'assurer qu'on ne vienne pas la déranger. Vous savez, Van Gogh voulait s'assurer de ne pas être ennuyé par les opportuns en ne se lavant pas pendant 40 jours. Ça devait marcher, d'ailleurs. Mais certaines personnes méchantes s'assurent de ne jamais être en contact avec autrui, simplement à aboyer toujours et à faire un visage détestable à tous ceux qui pourraient s'approcher, donc elle les éloigne. Et on peut se couper du contact à l'autre simplement par son regard. Elle a ce regard, elle a quelque chose de très méchant, de très maugréant. Elle a une petite fille ravissante, de 3 ans, qui est placée, qui est confiée à l'aide sociale à l'enfance. Cette petite fille, elle la rencontre une fois tous les 15 jours. Elle arrive dans l'espace, elle hurle. Oui, je me suis levé à 6h du matin pour venir te voir, j'ai pris 3 bus, tu te rends pas compte tous les efforts que j'ai fait, c'est horrible, tu vois pas combien je suis fatigué, tu veux ma mort, tu veux m'épuiser. La petite fille ne comprend strictement rien à ce qui lui est dit, mais comprend qu'elle est responsable de quelque chose de très grave et se met à pleurer. Puis ensuite la mère installe le repas, parce que nous avons un espace repas, prépare le plat alors qu'elle présente à l'enfant le dessert. L'enfant pioche dans le dessert et la mère se met à hurler « Ah, tu ne vois pas ce que tu fais, tu commences par le dessert, on ne commence pas par le dessert, on commence par le plat, attends le plat, tu fais n'importe quoi. » Et la petite fille pleure une deuxième fois. Et quand elle a réussi à faire pleurer sa fille 2 ou 3 fois, elle est insatisfaite. Alors, il nous faut comprendre comment les choses se passent et puis les énoncer. Un jour, j'ai dit à cette dame, quand j'ai bien compris comment elle fonctionnait, « Écoutez, je pense que vous vous représentez, que vous avez de vous une image tellement négative que vous ne vous représentez pas la possibilité de vous faire aimer de votre enfant. Et plutôt que de vous en faire aimer, vous préférez vous en faire haïr. Parce que là, vous êtes sûr de pouvoir être la cause de son émotion. » Ce n'est pas les termes que j'ai utilisés, mais ça revenait à ça. Elle m'a d'ailleurs répondu, « Mais ça ne me plaît pas du tout ce que vous me dites. » Et je lui ai dit, « Mais je ne suis pas là pour vous plaire. » Depuis, nos rapports sont beaucoup plus détendus. Cette mère est assez représentative des parents maltraitants. Les parents maltraitants peuvent prétendre et vouloir être des despotes, simplement par crainte de ne pas pouvoir être aimés pour ce qu'ils sont. Mais ils ne renoncent pas à être la cause de l'émotion de leur enfant. C'est vrai, quelle que soit la forme de la maltraitance, même dans les abus sexuels dont on parle beaucoup, comme subséquent à un gène déformé de quelques personnalités perverses, on retrouve des mécanismes analogues. Garder pour soi son enfant, se l'approprier, en avoir la possession totale jusqu'à celle de son corps, faire de son enfant un objet de jouissance ou un souffre-douleur, c'est le revendiquer pour soi et pour soi seulement. Ce mouvement qui empêche l'enfant d'être dédié à un autre par son parent est à l'origine de tous les dysfonctionnements parentaux. Alors, il est massif et énorme chez les parents très carencés ou maltraitants. Il est moindre chez d'autres parents, mais l'on voit combien certains parents sont en difficulté de dédier leur enfant à un autre. Je vous l'ai dit, c'est fonction de leur trouble identitaire, de leur malaise identitaire, de leur besoin narcissique. C'est largement un trouble auquel on est plus exposé aujourd'hui, dès lors que on a une exigence pour soi totale. Je vous l'ai dit, après l'avoir lu Mounier, on peut s'en persuader, nous sommes tous incités à faire l'idolâtrie de notre ego. Et les insuffisances ontiques sont éprouvées aujourd'hui bien plus douloureusement qu'elles ne pouvaient l'être autrefois. Il était acquis jusque dans les années 50, que nous étions imparfaits. Aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile de se prétendre imparfait. On a une revendication à la perfection. On est passé de l'idéologie de la peccabilité qui nous faisait penser comme des déchets immergés dans la faute, à une valorisation, à une hypervalorisation de soi. Cette image inversée est redoutable pour un grand nombre qui sont plus qu'ils ne l'auraient été en souffrance de ne pas être une totalité, la totalité auquel on les incite. Quels peuvent être les effets de ces difficultés sur l'enfant? Pour les appréhender, il faut non plus en rester à la notion de rôle parentaux, mais s'arrêter un instant sur celle de fonction parentale. Qu'est-ce que la fonction parentale? Comment l'enfant fait avec ses parents? Comment il peut prendre parfois le meilleur de ses parents et quelquefois le pire? Qu'est-ce qu'il utilise de ses parents? Pour comprendre l'impact d'un parent sur un enfant, il n'est pas suffisant de se demander quel a été le parent. Il est important de savoir ce que l'enfant a pu en faire, a pu se bâtir, comment il a pu se bâtir avec les parents qui ont été les siens. Et là, on est confronté à la notion de fonction parentale. Alors, la fonction parentale, c'est la manière dont l'enfant intègre son parent à sa propre, à son organisation interne. Et ça débute avec le commencement de la vie. Et la fonction maternante est la première des fonctions parentales. L'enfant utilise sa mère comme un auxiliaire psychique. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça paraît très mystérieux. Je vais essayer d'en rendre compte par quelques métaphores plutôt que des références qui seraient très vite insupportables. Déjà, il faut nous représenter que nous ne sommes pas en contact avec le réel, aucun d'entre nous. Au contraire de ce qu'on imagine, on est en contact avec la réalité, pas avec le réel. Quelle est la différence entre réel et réalité? C'est une différence fonction du suffixe « ité ». La réalité, c'est les propriétés du réel. Le réel, c'est un amoncellement de choses totalement disparates, dissemblables, auxquelles je ne peux rien attribuer, aucune signification. La réalité, c'est une relation que j'ai avec les catégories qui me permettent de ranger le réel dans des unités composées à partir de propriétés communes qui peuvent lier plusieurs objets entre eux. C'est le mot. Le mot est toujours une abstraction. Quand je dis vert, je parle d'une multitude d'objets possibles, mais qui ont quelques propriétés communes. Celles de servir de contenant. Quand je dis fleur, je parle d'une multitude d'objets possibles, mais qui ont des propriétés communes. Tu m'appelles la rose, dit la rose, mais si tu savais mon vrai nom, écrivait Paul Claudel, nul ne sait le nom de la rose, mais chacun, quand il voit une rose, repère aussitôt les propriétés qui la lient à d'autres objets et à une relation alors de signification, attribue une signification à l'objet qu'il côtoie. Nous ne sommes plus en contact immédiat au réel, mais en contact avec des réalités que nous nous représentons, c'est l'objet même de la réflexion, en projetant l'image du monde auquel on est confronté dans un ensemble imagé de symboles et de signes qui m'en restituent une image continue et ordonnée. L'enfant, le tout petit, n'a pas cette réflexion possible. Il n'a pas de mots. Il ne se réfléchit pas le monde. À l'inverse de nous, il est en contact immédiat avec le réel. Tout objet qu'il a déjà est pour lui une nouveauté, qu'il perçoit beaucoup mieux qu'on ne pouvait le concevoir. Le petit homme est beaucoup plus qu'on l'imaginait sensible au monde. On imaginait, il y a encore 30 ans, qu'il ne voyait qu'en noir et blanc. on sait qu'il voit pratiquement aussi bien que l'adulte, il aurait une petite difficulté d'accommodation, un peu plus myope que le sont les adultes de façon générale, mais sans plus. Il a le sens tactile, il a le sens de l'ouïe, il a l'odorat, il a le goût, nous dit-on. Il a une perception du monde totale, un monde sur lequel il ne peut pas agir. Et ce qui fait la spécificité de la condition humaine à son temps initial, c'est ce divorce qu'il y a entre une compétence sensorielle massive et une incompétence majeure au niveau motrice. Une capacité à percevoir le monde et une incapacité totale à s'en saisir. C'est pourquoi Delassus nous explique que le tout petit va avoir tendance à se focaliser, à focaliser son attention. Trop d'attention entraîne chez lui une dispersion redoutable. Cette confrontation au réel est insupportable parce que tout y est disparité. Il a besoin d'une attention soutenue à un objet qui va devenir une totalité, une globalité. C'est le visage de sa mère. Le visage de sa mère, il s'y concentre. Et c'est à partir de ce visage qu'il va se mettre à lire le monde, à se raconter le monde, puisqu'il ne peut pas lui se le raconter avec des mots. La mère va alors mettre en récit le monde pour son enfant. Elle devient cette surface réfléchissante qu'ultérieurement le langage compose pour nous. En fait, la mère, dans son rapport de parexcitation à l'enfant, occupe la place que la langue occupe ultérieurement en nous. Et c'est pourquoi on est en droit de parler de langue maternelle même quand la mère que l'on a eue était sourde et muette. Il y a une langue maternelle, c'est une langue qui occupe l'espace qu'occupait précocement la mère. Et d'ailleurs, dans le rapport au langage, on voit souvent comment s'imprime la cartouche de la relation qui nous liait à la mère, à notre mère. Aussi bien dans l'excellence que dans les troubles. Je vous en donne deux exemples. Dans l'excellence, il est assez étonnant le parcours d'Aragon, partir du dadaïsme, de cette tabula rasa, de ces poèmes phonétiques total, où la langue est déliée, sans racine. Aragon a été un poète dadaïste, un poète qui, à la fin de sa vie, retrouve l'excellence de la versification la plus classique. Mais un classicisme particulièrement austère, c'est, il y a quelque chose de gothique chez Aragon, du fait de la limpidité de son propos. Rien n'y est de trop, rien n'y est baroque. Il y a quelque chose d'excellent dans la rapidité du mot. Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. Les oiseaux qui paraphent le ciel, on ne peut pas imaginer plus scintillant. Ce parcours qui va de l'excellence classique, qui part du dadaïsme total à l'excellence classique, qui parcourt le siècle, est totalement étonnant. C'est un rapport à la langue quasi chamanique. Il a fallu que Aragon fasse dénaître la langue, c'est pourquoi elle s'est dit chamanique, pour qu'il la fasse ensuite renaître sous une forme particulièrement accomplie. Mais cette dénaissance de la langue pour une renaissance de la langue, elle s'inscrit aussi beaucoup dans son histoire. Aragon a cru que sa mère était sa grand-mère jusqu'à l'âge de 20 ans, et que sa mère, qui était sa mère, était sa sœur. On a brouillé les cartes. Ça se retrouve dans la langue d'Aragon, comme dans ce rapport au féminin. Ça, c'est pour l'excellence. Mais dans les troubles, je pourrais vous donner une illustration analogue. Un enfant que j'ai suivi quelques années, Elle avait été laissée à sa mère à une époque où les réseaux de naissance étaient moins performants qu'ils ne le sont aujourd'hui, à sa mère psychotique. Sa mère était gravement psychotique. Hein. Donc elle avait, cet enfant, une capacité à se confronter à sa mère dans l'instant. Ce qui me fait la marque de la psychose, du côté de l'enfant, c'est le côté imprévisible du parent. Le psychotique peut changer radicalement d'une minute à l'autre sans que rien ne puisse laisser prédire ce qu'il va devenir. Regardez cette triste affaire dont on parlait à table, à dîner de Grenoble. La même personne était plutôt sympathique à l'hôpital, elle en sort, elle devient meurtrière, elle est saisie par un homme qui passe par là et ne se défend pas. Elle est changeante de façon radicale. Ben, cette mère l'était. Et l'enfant acquiert la capacité de s'adapter à l'instant sans chercher à prolonger et à prédire. Et ben, cet enfant était dans ce même rapport au langage, un rapport immédiat, mais jamais prédictif. Ça ne facilitait pas l'acquisition de la grammaire. Un jour, elle est arrivée, alors, oui, avec dans son cartable une dictée. Alors, il y avait un nombre colossal de fautes, comme d'habitude, mais il y en a une qui m'a beaucoup surpris. Elle avait écrit le verbe « danser au futur » de la manière suivante. Dans, D-A-N-S, plus loin ce, C-E, plus loin RA, R-A-T, dansera. Elle avait écouté chacune des syllabes, l'avait isolée pour en faire un mot, mais n'avait pas su lier les syllabes les unes entre elles, les unes avec les autres pour faire un mot. Du côté des dysorthographies, il est très fréquent de trouver la cartouche de la relation à la mère. De la même manière, dans cette difficulté qu'ont les enfants à sectionner les syllabes, au contraire, à agrégat, ils vous font des mots-phrases, c'est l'inverse de celle-ci. C'est des enfants qui vous écrivent trois mots en un seul, qui ne vous le cassent et ne vous fragmentent pas comme ils devraient l'être. En fait, on s'aperçoit que ces enfants ont souvent été des enfants qui ont eu du mal à s'arracher, pour reprendre l'expression de Dolto, au syndrome du sevrage. Vous savez, cette époque très particulière où la mère est la seule à comprendre ce que dit le bébé. Et le père est là à dire à la mère, mais qu'est-ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il dit. Cette langue commune que l'enfant fait avec sa mère et l'image assez précise de ce trouble ultérieur de l'acquisition de la langue écrite. Pourquoi ? Parce que la mère, initialement, est la source de la réflexion. La fonction maternante est source réfléchissante. Et c'est à partir d'elle que s'engrange le rapport au réfléchi. Et la manière dont on manie la langue, le goût qu'on a de le faire ou de ne pas le faire, la prise de parole, la capacité que l'on a à l'apprendre ou ne pas à l'apprendre, est largement tributaire des relations qu'on a eues avec sa mère. En quoi la mère peut exercer la fonction réfléchissante? Je vous en donne une illustration, une allégorie, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est une image qui illustre peut-être mieux qu'un propos théorique. Imaginez que vous soyez dans une forêt profonde, dans la Saône par exemple, en période de chasse. Vous cheminez dans la forêt, vous entendez un grognement, vous vous inquiétez. S'agit-il d'un sanglier ? Vous arrêtez votre pas. Vous interrogez votre mémoire, la mémoire de son analogue. Vous faites fonctionner la mémoire et le rappel. Pour qu'il y ait rappel, il faut qu'il y ait une capacité d'avoir nommé, sinon il n'y a pas de rappel possible. Le rappel, l'enfant ne l'a pas, parce qu'il n'a pas nommé. Il mémorise. Mais il n'est pas suffisant de mémoriser pour se rappeler. Vous pouvez vous rappeler des sons analogues. Vous ajustez ce que vous percevez avec ce que vous avez déjà perçu. Et il vous vient à l'idée que ce n'est pas un sanglier, mais que c'est un chien. Vous voilà rassuré. Un chien, le plus souvent, ça ne nous inquiète pas. Et puis vous vous interrogez davantage et vous vous dites, c'est un chien, quel type de chien? Ah, c'est un setter. Alors là, vous n'êtes plus du tout inquiet. Parce que qui connaît un peu les chiens, sait que les setters sont particulièrement sympathiques. Et vous continuez votre chemin. Vous avez interrogé ce qui a été en fonction de ce qui est, pour vous rassurer. Vous avez réfléchi la situation présente à partir de l'éclairage que vous apportent les situations anciennes auxquelles vous avez pu être confronté, des liens et des associations que les mots vous permettent de faire. L'enfant n'a absolument pas la possibilité de faire ça. Par contre, s'il est dans les bras de sa mère, il regarde comment sa mère réagit au grognement. Quand la mère s'inquiète, il s'inquiète. Quand la mère se détend, il se détend. Il apprend à lire le monde sur le récit que le visage de sa mère lui fait du monde. Et c'est en ce sens que la mère, comme dit de la Suisse, prend ce rôle réfléchissant. Et un jour, elle va lui réfléchir une image particulière. C'est la sienne. Et c'est pourquoi la mère est aussi responsable du sentiment continu d'exister. Parce que avant que d'être capable de se voir dans le regard de sa mère, qui le regarde pour reprendre l'expression de Winnicott, le bébé n'a de lui qu'une perception émiettée, éclatée, et s'aimer. Elle se ramasse cette perception dans le regard de sa mère qui le regarde. Elle le regarde, cet enfant, comme l'objet qu'elle souhaitait, ou pas tout à fait. Elle peut le regarder, mais elle peut aussi ne pas le regarder. Elle peut aussi le regarder au-delà. Elle peut ne pas associer l'enfant qu'elle porte à l'enfant qu'elle aurait souhaité avoir. Dans ce cas-là, vous avez des troubles dépressifs qui s'amorcent et qui s'installent. Je vous en donne une illustration. J'ai longtemps exercé comme superviseur dans des maisons vertes. Vous savez, ces lieux initiés par Françoise Dolto. Et dans l'une de ces maisons vertes, dans un centre-ville, on m'avait évoqué la situation d'une mère et d'un enfant qui réagissaient très mal au propos de la mère. Mais rien dans le propos de la mère ne pouvait justifier qu'il y réagissât mal. Les accueillants avaient plusieurs fois évoqué la situation. Rien ne semblait notable. Les propos de la mère semblaient tout à fait adaptés. La maison verte était installée dans une ruelle assez sombre et j'y arrive un jour, le jour décliné. Mais les parents étaient encore là, ce qui normalement n'avait pas lieu d'être. Et là j'arrive un peu tôt et plutôt que d'attendre dehors, je rentre à l'intérieur. Aussitôt que je rentre,